VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 19h30 temps universel du 25 juillet 2018 sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia à la présentation, voici les titres. Tension à Tombouctou dans le nord du Mali après la violation du couvre-feu en vigueur. Nous sommes à 4 jours de l'élection présidentielle au Mali. Au Soudan du Sud, le gouvernement et les rebelles ont signé à Khartoum un accord préliminaire sur le partage du pouvoir. En Guinée, la grève se poursuit, tout comme le bras de fer entre gouvernement et syndicats.
Nous sommes en train de réfléchir une fois encore sur de nouvelles actions innovantes afin de ramener l'État à reconsidérer sa position.
Le président américain Donald Trump reçoit le chef de l'exécutif européen Jean-Claude Juncker sur fond de conflit commercial entre Washington et l'Union européenne. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Hier soir, une patrouille des forces armées maliennes a interpellé plusieurs individus à bord de 3 véhicules. Au cours de l'interpellation, l'armée a essuyé des tirs. Les jeunes en colère ont incendié les véhicules de suspects abandonnés. À Tombouctou, les précisions de notre correspondant Abdoulaye Traoré.
Tombouctou a frôlé ce matin un conflit intercommunautaire sans précédent. Rappel des faits, hier soir vers 22h, heure locale. 3 véhicules suspects sont interceptés par une patrouille de l'armée malienne, à bord des individus armés qui ont ouvert le feu sur les militaires maliens. Tous sont mis aux arrêts et conduits vers le camp militaire. Leurs véhicules abandonnés sur les lieux ont été saccagés et incendiés par des jeunes en colère de la communauté noire. C'est l'acte qui a mis donc le feu aux poudres. Pour se venger, des jeunes de la communauté arabe bien armée, tôt ce matin, ont quadrillé le marché pour empêcher toute activité. En même temps, intercepter des motos et les brûler. En termes de vengeance, il a fallu donc l'intervention des forces de sécurité du Mali et celles de la MINUSMA pour ramener le calme, malgré les tirs sporadiques qui ont continué toute la matinée. Mais pas de perte en vie humaine. Un seul blessé côté des jeunes de la communauté arabe. Les autorités régionales ont aussitôt fait des déclarations d'apaisement sur les différentes radios locales. Abdoulaye Traoré, VOA Afrique, Tombouctou.
L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a exhorté les juges de la Cour pénale internationale à prononcer son acquittement et à le libérer de prison. Selon ses avocats, le procureur n'a pas été en mesure de prouver les accusations de crimes contre l'humanité. Dans une requête envoyée lundi à la Cour pénale internationale, ils ont estimé que Laurent Gbagbo devrait être acquitté de toutes les charges retenues contre lui suite aux violences post-électorales qui ont déchiré la Côte d'Ivoire en 2010 et 2011. Et on reste en Côte d'Ivoire où un violent incendie dans la ville de Rombassam, à une 30 kilomètres d'Abidjan, a fait 9 morts, dont 6 enfants la nuit dernière. L'origine de l'incendie n'est pas encore connue. Au Cameroun, des éboulements de terrain provoqués par les inondations ont fait au moins 5 morts à Limbé, dans le sud-ouest du pays. Les recherches continuaient ce mercredi pour tenter de retrouver d'autres victimes. À Douala, où les inondations sont fréquentes, certains quartiers ont également été envahis par les eaux ce matin, à la suite de pluies diluviennes. Le gouvernement et les rebelles du Soudan du Sud ont signé ce mercredi à Khartoum un accord préliminaire sur le partage du pouvoir. Selon le ministre soudanais des Affaires étrangères, cet accord permettra le retour du dirigeant rebelle Riek Machar au poste de premier vice-président. En République démocratique du Congo, nous sommes à 5 mois des élections tant attendues et c'est à partir de ce mercredi que les candidats pour la présidentielle doivent déposer leur dossier. Ils ont d'ailleurs jusqu'au 8 août pour le faire, mais ce n'est qu'au mi-septembre que l'on connaîtra la liste définitive des prétendants. Et sur l'autre rive du fleuve Congo à Brazzaville, une ONG accuse la police de la mort de 13 jeunes dans la nuit de dimanche à lundi, ce que nie le porte-parole du gouvernement. Les explications de Yacouba Ouedraogo.
Dans la nuit de dimanche à lundi, 13 jeunes garçons ont trouvé la mort dans un commissariat de police où ils étaient détenus. C'est une exaction de la police, a accusé Trésor Nzila, directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, OCDH. Il a souligné que, sous couvert de l'anonymat, des policiers leur ont témoigné que certains corps baignaient dans le sang. Le porte-parole du gouvernement Thierry Mungala a réagi, déclarant qu'il ne s'est rien passé au commissariat. Il a ajouté, je cite, « Deux bandes se sont affrontées de manière très violente sur la voie publique, avec toutes sortes d'armes blanches, comme au moins une arme à feu qui a été retrouvée. Et cet affrontement a entraîné la mort de plusieurs hommes. » D'après le porte-parole du gouvernement congolais, la police a ensuite transféré des individus vers le commissariat de Chakuna, qui a dirigé certains vers les services d'urgence. Le procureur de la République, André Ngakala Oko, a affirmé que deux groupes de jeunes appelés bébés noirs se sont affrontés avec toutes sortes d'armes, entraînant des morts sans indiquer le nombre de décédés et l'endroit où se trouvaient les corps. Il a ordonné l'ouverture d'une enquête. Le CDH demande une enquête administrative et judiciaire et dit vouloir envoyer aux Nations Unies une demande d'autopsie.
L'opposition zimbabwéenne soupçonne le pouvoir de vouloir frauder lors des élections présidentielles et législatives du 30 juillet. Le chef de l'opposition, Nelson Chamisa, a déclaré que l'arrogance de la commission électorale qui a choisi de ne pas jouer le jeu de la transparence et l'utilisation des médias publics par le pouvoir laisse penser que ces élections sont sur le point d'être frauduleuses. Les élections de lundi seront les premières dans ce pays depuis la chute de Robert Mugabe en novembre dernier. Nous reviendrons en partie magazine sur la situation politique au Zimbabwe à quelques jours des élections. Et puis en Guinée-Bissau, les fonctionnaires sont depuis hier en grève pour 10 jours. Ils réclament une hausse du salaire minimum et de meilleures conditions de travail. À Bissau, les ministères et bureaux de l'administration étaient fermés et en service minimum observé à l'hôpital Simão Mendes, le plus grand du pays, a constaté un journaliste sur place.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Rencontre à la Maison-Blanche entre le président américain Donald Trump et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Avant le début de leur rencontre, M. Trump et Juncker ont donné des signes d'apaisement pour des discussions pour résoudre le conflit commercial entre les deux grandes puissances économiques. Les explications de Nicolas Pinot.
Cette rencontre s'effectue dans un contexte tendu puisque ce mercredi, l'Union européenne annonce se préparer à taxer en représailles des produits américains pour une valeur de 20 milliards de dollars au cas où Washington appliquerait sa menace de taxer les automobiles européennes. Selon Donald Trump, c'est grâce à sa position intransigeante que les dirigeants européens ont été amenés à la table des négociations. Avant sa rencontre à Washington, Jean-Claude Juncker a souligné que l'Union européenne n'était pas au banc des accusés et qu'elle n'avait pas besoin de se défendre. Nous n'avons aucune stratégie que celle du dialogue, a affirmé la commissaire au commerce Cecilia Malmström, qui accompagne Jean-Claude Juncker à Washington. Tôt ce mercredi, Donald Trump s'était livré à l'une des attaques les plus virulentes contre la Chine, dénonçant cette fois son attitude malveillante en plein bras de fer commercial avec Pékin, qu'il accuse depuis des mois de pratiques déloyales.
De son côté, le président chinois Xi Jinping a mis en garde son homologue américain Donald Trump contre les dangers d'une guerre commerciale généralisée, assurant que personne n'en sortirait vainqueur. L'unilatéralisme et le protectionnisme progressent et portent un coup sévère au multilatéralisme et au commerce multilatéral, a déclaré Xi en ouverture du sommet annuel des chefs d'État et de gouvernement des BRICS. Et puis la Maison-Blanche vient d'annoncer que la deuxième rencontre entre le président Trump et Poutine prévue pour l'automne n'aura finalement pas lieu avant 2019. Ceci, dit-elle, en raison de l'enquête sur l'ingérence russe présumée dans la présidentielle de 2016. Un attentat suicide revendiqué par le groupe État islamique près d'un bureau de vote de Quetta dans le sud du Pakistan a fait une trentaine de morts. On fait le point avec Michel Joseph.
Le kamikaze en question a tenté d'entrer dans le bureau de vote. Quand la police a essayé de l'arrêter, il s'est fait exploser. Parmi les 31 victimes, 5 policiers et une fillette de 8 ans. L'attentat a été revendiqué par le groupe État islamique sur Hamak, son agence de propagande. Il s'est produit au moment même où un scrutin tendu se déroule au Pakistan pour élire le prochain parlement. La ville de Quetta avait déjà été endeuillée il y a 10 jours par un autre attentat suicide qui avait fait au moins 153 morts au cours d'une réunion électorale à Mastung, à une quarantaine de kilomètres de la capitale provinciale. Le groupe État islamique avait là aussi revendiqué l'attentat.
Des rebelles yéménites ont mené une attaque contre un navire saoudien transportant du pétrole en mer Rouge. Une attaque qui a fait des dégâts mineurs selon la coalition sous commandement saoudien qui intervient dans la guerre au Yémen. Et puis au Canada, la police de Toronto a indiqué qu'aucune preuve ne permet de corroborer la revendication du groupe État islamique. Selon l'EI, un de ses soldats a perpétré la fusillade qui a fait 2 morts dimanche dans la capitale économique du pays. Nous allons continuer à explorer toutes les pistes, notamment en interrogeant ceux qui connaissaient l'auteur, Faisal Hussein, et en analysant son activité sur Internet, a fait savoir la porte-parole de la police de Toronto. L'assaillant a tiré au hasard sur des piétons déambulant sur une artère animée du quartier grec de la ville avant de cibler des restaurants bondés. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et c'est Eric Manirakiza qui nous présente la Minute Éco.
Le grand opérateur portuaire émirati DP World a conclu un accord pour la construction d'une plateforme et logistique de 1000 hectares aux abords de Bamako au Mali. Elle aura une capacité annuelle de 4 millions de tonnes de marchandises. La plateforme favorisera l'import et l'export de biens à travers le port de Dakar. DP World va investir 50 millions de dollars dans la première phase de projet. Le contrat de concession est de 20 ans, renouvelable automatiquement pour 20 ans de plus. Les travaux commencent à partir de 2019 et vont durer 18 mois. Greenpeace Africa exhorte le géant mondial du caoutchouc à stopper la destruction des moyens de subsistance des communautés et la biodiversité au Cameroun. L'ONG a dénoncé les ravages sur l'environnement et les populations pygmées d'une plantation d'EVA dans le sud du pays. La société singapourienne Alcyon Agri est aussi accusée d'être responsable de la nouvelle série de défrichages la plus dévastatrice de l'agriculture industrielle dans le bassin du Congo. Le secteur agricole représente environ 15% du produit intérieur brut au Cameroun. Le sommet annuel des chefs d'État et de gouvernement des BRIC, qui comprend le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, dénonce le protectionnisme et les dangers d'une guerre commerciale. Le président chinois Xi Jinping a prévenu à Johannesburg qu'une guerre douanière avec les États-Unis se solderait sans aucun vainqueur.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahman, bonsoir à tous.
4 finalistes pour le poste de sélectionneur des pharaons d'Égypte.
Le choix se fera entre l'Espagnol Kike Sanchez Flores, le Mexicain Javier Aguirre, le Bosnien Vahid Ali Lodic et le Colombien Jorge Luis Pinto. Le technicien choisi remplacera l'Argentin Hector Cooper, remercié après l'élimination de l'Égypte au premier tour du Mondial 2018. Les membres du comité directeur de la fédération ont été sollicités pour désigner le nouvel entraîneur. L'Égypte espère annoncer son nouveau sélectionneur début août pour que ce dernier entame les préparatifs des éliminatoires de la CAN 2019. Les pharaons feront face au Niger en septembre.
Sorti dès les éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans, la Zambie conteste l'âge des Burundais.
Tenante du titre, la Zambie a été éliminée par le Burundi vainqueur 3-0 à Bujumbura après sa défaite 0-1 à l'aller. Dans un communiqué, la fédération zambienne dit avoir saisi la CAF pour lui demander de mener une enquête sur l'âge des joueurs burundais. La Zambie soutient également que ces joueurs ont été physiquement intimidés par leurs hôtes avant le match. Sur les réseaux sociaux, la photo de l'équipe du Burundi a circulé et beaucoup d'internautes ont remis en cause l'âge des joueurs. La compétition doit se dérouler du 2 au 17 février 2019 au Niger.
Benjamin Pavard est le lauréat du plus beau but du Mondial 2018.
Et oui, le but exceptionnel du défenseur de l'équipe de France en 8e de finale contre l'Argentine a été élu plus beau but de la compétition par la FIFA. La reprise en demi-volée du joueur de Stuttgart, qui avait permis aux Bleus d'égaliser en seconde période, l'a emporté à l'issue d'un vote du public organisé sur le site internet de la FIFA. Pavard est arrivé en tête des 169 réalisations enregistrées en Russie.
Du cyclisme pour terminer, Nairo Quintana remporte la 17e étape du Tour de France.
Oui, le grimpeur colombien a remporté en solitaire cette 17e étape marquée par le recul du Britannique Chris Froome. Le gallois Geraint Thomas, 3e de l'étape, a conforté son maillot jaune après sa 2e des 3 étapes pyrénéennes à 4 jours de l'arrivée à Paris.
Merci Yacouba. Voilà, donc vous écoutez toujours Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, on passe au dossier du jour. Bras de fer entre le gouvernement guinéen et les syndicats qui ont enclenché une grève générale pour protester contre la hausse de 25% des prix du carburant. Une nouvelle marche de l'Union des forces sociales de la Guinée est prévue demain à Conakry, après celle qui a été empêchée lundi par les forces de sécurité guinéennes. Le Premier ministre, lui, avait dénoncé ce qu'il considère comme une prise en otage du pays par les syndicats. Irénée Hermanoumbo a joint à Conakry Dora Aboubakar Koïta des forces sociales de la Guinée.
Nous avons déclenché un certain nombre d'actions et de démarches afin de ramener l'État à reconsidérer sa décision et à ramener le prix du carburant à 8000 francs à la pompe. Et nous ne sommes pas prêts à abandonner ce combat et nous sommes convaincus que les citoyens, dans une grande majorité, adhèrent à ce combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui.
Syndicats et forces sociales réclament tous la réduction du prix du carburant, vous venez de le dire, y compris la cherté de la vie. Pourquoi ne menez-vous pas une action commune et vous évoluez en rang dispersé?
Non, nous menons les mêmes actions au même moment. Ça veut dire tout simplement, les syndicats mènent les actions en termes de grève. Nous, en tant que société civile, on ne peut pas déclencher des grèves. Nous ne défendons pas des travailleurs. Ce sont les syndicats qui peuvent déclencher des grèves. Raison pour laquelle, quand les syndicats déclenchent des grèves, nous, de notre côté, en tant que société civile, en tant qu'acteurs sociaux, nous appelons les citoyens, les travailleurs et tous les citoyens à observer le mot d'ordre des grèves.
En plus de la diminution du prix, vous dénoncez aussi la corruption et la mauvaise gouvernance. C'est bien cela?
Oui, bien sûr. Mais nous pensons tout simplement que les mots qui gangrènent aujourd'hui notre système de gouvernance, nous pensons que l'augmentation du prix du carburant à 25% ne peut être justifiée que par la corruption, ne peut être justifiée que par la mauvaise gouvernance. Et tant d'autres qui sont des mots aujourd'hui qui caractérisent le fonctionnement de notre État.
Monsieur Koïta, qu'allez-vous faire si le gouvernement ne réagissait pas à vos revendications?
Nous allons passer par tous les moyens légaux afin que l'État reconsidère sa décision. Une fois encore, les marches et les manifestations, mais aussi les journées villemortes. En dehors de ça, nous sommes en train de réfléchir une fois encore sur de nouvelles actions innovantes afin de ramener l'État à reconsidérer sa position.
Une prochaine action en vue?
Oui, bien sûr, oui. Et d'ailleurs, ça commence déjà demain. Demain, nous avons encore une marche programmée. Parce que depuis le 16 de ce mois, nous avons envoyé deux courriers d'information pour deux marches différentes. La première a été empêchée illégalement le lundi passé par les services de sécurité. Mais nous avons une deuxième marche programmée demain, qui a pour itinéraire d'ailleurs l'esplanade des stades du 28 septembre jusqu'à la primature.
Et qu'est-ce qui vous fait croire que cette seconde marche ne sera-t-elle pas aussi empêchée?
Si les autorités pensent qu'ils peuvent donner des ordres aux services de sécurité pour nous empêcher de manifester, pour nous arrêter arbitrairement, mais aussi de façon ciblée, nous pensons une fois encore que l'opinion nationale et internationale saura apprécier ce qui va se passer sur le terrain.
C'était le syndicaliste guinéen Dora Aboubakar Koïta.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Les élections présidentielles et législatives du 30 juillet au Zimbabwe, les premières depuis la chute de Robert Mugabe en novembre, sont sur le point d'être frauduleuses, a dénoncé ce mercredi le chef de l'opposition Nelson Chamisa, qui n'entend pas boycotter ces scrutins toutefois. Pour une analyse, Nicolas Pineau a joint à Harare John Stewart, ancien militant des droits de l'homme.
Bien qu'il y ait 23 candidats pour la présidence, il y a réellement deux partis qui ont réellement du support, donc le ZANU-PF et l'alliance du MDC, qui regroupe, je crois, 8 éléments qui se sont regroupés ensemble pour se présenter contre le ZANU-PF. À ce moment, en fait, la situation est assez calme. C'est-à-dire qu'il y a des éléments difficiles. Les médias ne sont pas tout à fait ouverts, surtout le média de l'État qui est contrôlé par le ZANU-PF. La commission électorale du pays doit être tout à fait indépendante, mais a fait des décisions et des actions qui semblent qu'il y a au moins quelques éléments de ces actions qui ont préféré Mnangagwa. Donc on a quelques tensions là-dessus.
Pour certains, il ne fait aucun doute que Mnangagwa sera réélu étant donné bien évidemment qu'il contrôle tous les leviers du pouvoir. Qu'en pensez-vous?
La résistance l'identification des voteurs a été faite avec des identités biométriques, ce qui a fait que c'est beaucoup mieux que dans les dernières élections, dans les années passées. Mais il y a des problèmes, par exemple, le bulletin de vote pour l'élection du président doit être une liste alphabétique, un seul colon des noms, donc 23 noms, avec le nom du parti, l'emblème du parti et la photo du candidat, mais la commission électorale a décidé de présenter une page avec deux colonnes, 14 sur un colonne et 9 sur l'autre, qui fait que Mnangagwa est au sommet de la deuxième colonne et non pas le 15e dans le seul colonne. Donc on a une situation où l'opposition pense que l'électorat a favorisé Mnangagwa.
Quel est l'état du Zimbabwe depuis que Mnangagwa a pris le pouvoir après la chute de Robert Mugabe?
On a eu une situation plus ouverte. La majorité des électeurs ont moins que 40 ans. Et donc, une question sur les générations, c'est très important. On verra si ça va faire quelques pressions sur les résultats de cette élection. La situation a été beaucoup plus ouverte ces derniers mois que dans les élections des dernières décennies parce que Mnangagwa a retiré la police et d'autres éléments de la structure de sécurité du pays pour permettre les oppositions de se présenter dans les campagnes un peu dans le pays.
C'était John Stewart, joint à Harare.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Nigeria, un autre poids lourd sur la scène politique a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2019. L'ancien vice-président d'Olusegun Obasanjo, Atiku Abubakar, compte briguer la candidature du principal parti d'opposition, le PDP, pour défier l'actuel président. Il avait pourtant rallié Muhammadu Buhari en 2015. Homme d'affaires ayant fait fortune dans le secteur des hydrocarbures, Atiku Abubakar a été pendant un moment soupçonné de corruption lorsqu'il était vice-président, mais n'a jamais été inculpé. Le reportage de Gilbert Tamba, le correspondant de VOA Afrique au Nigeria.
L'annonce de la candidature d'Atiku Abubakar depuis son fief électoral dans l'état d'Adamawa, dans le nord-est du pays, n'est pas une surprise pour beaucoup de Nigériens. Cela fait plusieurs mois qu'il voyage à travers le pays pour solliciter le soutien des militants et des ténors du PDP, le plus grand parti d'opposition au Nigeria, auquel il a décidé de faire une offre officielle pour la course présidentielle 2019 sous son ticket. Son porte-parole, Segun Chehoumi, explique pourquoi Atiku Abubakar se lance dans la course à la magistrature suprême de la première puissance économique du continent africain.
Unfortunately for this country,
malheureusement pour ce pays, nous nous retrouvons au plus bas niveau de notre histoire et tout le système de gouvernement s'est effondré. Les tueries de masse et les crises dans le pays restent imprévisibles. L'économie du pays n'a jamais été à ce niveau actuel et le pays n'a jamais été divisé comme il l'est aujourd'hui.
Cependant, il doit faire face à d'autres aspirants, certains originaires de la même région que lui, aux primaires du Parti démocratique du peuple, qui aboutiront à la désignation d'un candidat. Kachi Omunoju est un des responsables du principal parti d'opposition au Nigeria, PDP.
He is welcome to our party. He is a foundation member of the PDP. We enjoin all.
Il est le bienvenu au sein de notre parti. Il est membre fondateur du PDP. Nous invitons les autres candidats à suivre son exemple pour faire campagne en visitant tous les États du Nigeria pour informer sur leur intention de se présenter à la présidentielle au Nigeria.
Ce n'est pas la première tentative de l'ancien vice-président d'Olusegun Obasanjo et sa candidature risque de peser sur l'électorat du président candidat, particulièrement dans le nord-est du pays. Atiku Abubakar, qui veut également profiter du bilan mitigé de Muhammad Buhari pour revenir aux affaires du pays le plus peuplé d'Afrique avec ses 200 millions d'habitants. Dans les rues d'Abuja, les Nigériens, visiblement inquiets de la situation d'insécurité actuelle dans le pays, témoignent de ce qu'ils pensent de la candidature de l'ancien vice-président.
Pour moi, il est un homme d'expérience sur la scène politique au Nigeria et je pense qu'il peut être un bon président pour le Nigeria.
À 72 ans, Atiku Abubakar entend mettre toutes les chances de son côté pour barrer la route à Buhari qui aspire à un second mandat. La multiplication des conflits et l'insécurité au Nigeria feront partie des grands enjeux et seront sans doute au cœur de la campagne de l'élection présidentielle de 2019. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, il y avait Sims Lumami et Sidrak Franklin à la console. Présentation Abdourahmane Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Le 12 mars, le premier ministre de la Santé et d'Hygiène publique de Côte d'Ivoire a organisé à Abidjan la réunion initiale sur la première étude nationale sur l'impact du sida qui a porté sur plus de 20 000 personnes à ce jour. L'étude, appelée « Évaluation de l'impact du sida sur la population de Côte d'Ivoire » ou CIFIA, a pour objectif de tester un échantillon représentatif de la population ivoirienne pour ensuite utiliser des modèles statistiques afin de mesurer le niveau actuel de la pandémie du sida en Côte d'Ivoire. Le projet CIFIA est financé par le plan d'urgence du président américain pour l'aide contre le sida, le PEPFAR. La Côte d'Ivoire fait partie des 13 pays en passe de contrôler l'épidémie du sida d'ici 2020 grâce à la récente stratégie d'accélération du PEPFAR. La réunion du comité d'organisation du projet CIFIA a fourni des directives stratégiques ainsi qu'une supervision de l'étude ayant commencé en août 2017. Jusqu'ici, environ 11 000 ménages y ont participé et ont donné leur échantillon de sang. Les résultats préalables du CIFIA sont attendus pour décembre 2018. Selon Catherine Bracker, chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis, ces estimations sont des projets complexes et j'applaudis le haut niveau d'engagement des tant d'intervenants dans ce projet. Des représentants du Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies ont assisté à la réunion, à l'invitation du docteur Raymond Goudou Goffi, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. C'est elle qui préside le comité et a été représentée par son directeur de cabinet. Lors de cette réunion, le docteur G. Laïssa Ouedraogo, directrice pays du CDC, a expliqué qu'une fois achevé, le projet CIFIA aidera la Côte d'Ivoire à mieux cibler sa prévention et ses efforts de traitement du sida. Celle-ci a également loué le ministère pour son leadership et son expertise. Des représentants de l'Institut national des statistiques ainsi que l'Organisation mondiale de la santé ont également intervenu au début de la rencontre. Le Lesotho, le Malawi, le Swaziland, l'Ouganda, la Zambie ainsi que le Zimbabwe ont mené à bien des évaluations similaires de l'impact du VIH sur la population au cours des 18 derniers mois soutenus par le PEPFAR. Le CDC et d'autres participants tels que l'ICAP de l'Université de Columbia aident aussi le gouvernement avec ses études. Et selon la chargée d'affaires Bracker, les États-Unis et la Côte d'Ivoire ont un partenariat très ancien en termes de santé publique datant de plus de 30 ans. Nous sommes conscients que des bonnes données scientifiques sont essentielles pour parvenir au contrôle de l'épidémie de SIDA-VIH. Je suis donc réconforté par ces discussions productives sur l'utilité des résultats du projet CIFIA.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet.